Ulla, vous avez la parole, madame.
Thank you, Mr. Vice President. Before I begin,
je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Je voudrais d'abord rendre hommage à un groupe de personnes qui ne sont pas souvent reconnues malgré le travail de prévention pour les crimes contre les Rohingyas. Un pêcheur qui voulait sauver un bateau sur la mer d'Adaman malgré les représailles. Je voudrais aussi remercier les femmes qui cuisinaient et qui ont abrité des Rohingyas qui sont arrivés sur leur rivage la semaine dernière. Je remercie aussi les avocats indonésiens et beaucoup en Asie qui n'ont pas renoncé aux Rohingyas alors que le système ne nous aide pas. Mes remarques aujourd'hui porteront sur l'intersection entre les obligations des États et la responsabilité des entreprises. Nous voyons les terreurs contre les Rohingyas et ce qui me rappelle le problème aujourd'hui, alors que j'ai vu une vidéo du HCDH Asie de mon collègue Rohingya qui a été l'objet de 500 commentaires disant tous la même chose. Nous ne voulons pas les Rohingyas en Indonésie. Des termes plus forts ont été employés, mais je vous épargnerai. Mais le sentiment reste que les Rohingyas restent le problème. Ils ne sont pas voulus. Pourquoi ne peut-on pas rester dans notre propre pays? Certains des récits, par curiosité, que j'ai vérifiés, ont été créés quelques heures avant. Et certains expriment la façon dont les Rohingyas sont peu civilisés et problématiques. Ce n'est pas la première fois que nous sommes décrits de cette façon-là. Ce sont ces mêmes sentiments qui ont été propagés. C'est une culture de génocide. Comme l'a dit une de mes collègues, il n'y a pas d'acte de génocide sans culture du génocide. Ce n'est pas la première fois que nous voyons le problème de réduction à l'état de victime. Sur Facebook, quelqu'un a dit que le problème du Bengale était long. Le travail n'a pas été terminé malgré les efforts des présidents gouvernants pour le résoudre. Les pouvoirs publics font des efforts pour régler le problème. Lorsque l'État perpétue de la violence en utilisant les médias comme arme, il faut arriver à ce que les entreprises défendent les droits de l'homme. Ce qui m'amène à la deuxième question. Si on avait connaissance du dommage algorithmique contre les Rohingyas dès 2011, par des études multiples internes, on n'aurait pas eu cette situation. L'algorithme de Facebook a amplifié un contenu en propageant la haine contre les Rohingyas et a aidé à façonner cette situation. Après 2017, des changements de politique ont été adoptés pour briser la glace avec des mesures pour aborder les risques en termes de droits de l'homme pour les Rohingyas et qui ne concernent pas forcément la crise des Rohingyas. Toutefois, ça ne valait que pour le court terme. Nous n'avons pas vu vraiment de changement par le retrait de certains discours haineux. Il ne suffit donc pas d'adopter une politique, en l'occurrence, mais la participation des deux États et des entreprises dans l'exécution et la mise en œuvre sera nécessaire pour à la fois traiter des atrocités en masse et pour les prévenir. Mon exemple de la vidéo par ma collègue a montré que lorsque une culture du génocide est créée, elle est toujours reproduite ailleurs. Elle est reproduite au Bangladesh, en Thaïlande, en Malaisie et à présent en Indonésie, où les Rohingyas sont perçus comme une menace pour la sécurité nationale plutôt que comme des réfugiés, en partie en raison de ces campagnes de haine. Alors comment les États s'assurent de prévenir cette incitation publique au génocide sur cet espace numérique? Tout d'abord, je ne vais pas introduire de nouvelles solutions, mais il faut que les États d'abord voient la résolution 16-18 2011 pour lutter contre le stéréotypage et la stigmatisation et la discrimination, l'incitation à la violence et la violence contre les personnes fondées sur la religion ou la conviction, tout en associant les parties pour qu'elles s'attaquent aux premiers signes de façon efficace. Pour les Rohingyas, il y a eu beaucoup de signes d'alerte, mais les États, y compris le gouvernement civil du Myanmar à l'époque, n'a rien fait. Ensuite, les États devraient intégrer et mettre en œuvre un plan d'action développé par le HCDH et ses experts de façon à traiter de l'incitation au génocide pour le prévenir afin de s'assurer que les États n'utilisent pas le travail de prévention comme moyen de réduire la liberté d'expression et les droits numériques. Ce plan d'action place un seuil très élevé pour limiter la liberté d'expression, le droit d'expression, comme les orateurs précédents l'ont signalé. Le travail de prévention du génocide implique aussi bien le secteur public que privé. C'est aussi un travail collectif. J'espère que les États membres, ainsi que tous les protagonistes concernés, reprendront ces recommandations pour les appliquer immédiatement. Traiter du génocide sera toujours plus difficile que de le prévenir d'entrée de jeu. C'est là de notre responsabilité collective et non pas d'un ou deux États à défendre les normes des droits de l'homme et le travail de prévention. Je vous remercie.